Bonjour à tous. Il y en a que je n'ai pas vu encore ce matin, alors je me réjouis de vous saluer. Donc effectivement, nous allons continuer notre série de prédications sur les dons de l'Esprit. À la suite de la dernière prédication sur David, cet homme selon l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui se reconnaîtra dans l'Assemblée, nous a demandé à Nicolas et moi, « Alors, vous allez bientôt nous proposer l'étude de tous les dons de l'Esprit ?» Cette question nous a interpellés. Chacun de nous y a réfléchi pour les deux dernières prédications qui étaient encore à venir, donc aujourd'hui et la semaine prochaine. Et pour ma part, je me suis penchée sur les deux textes de 1 Corinthiens 12 qui sont pour beaucoup la référence en la matière. Alors, tous ceux qui ont leur Bible entre les mains et ceux qui ont une version de la Bible sur leur téléphone, je vous invite à rechercher ces passages pour que nous les lisions ensemble, parce que je ne les ai pas recopiés exprès pour que vous aussi, vous travailliez un peu ce matin. Donc, pour ma part, je vais lire dans la version Semeur. Nous allons d'abord lire 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 11. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. En chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse. À un autre, le même esprit donne une parole chargée de savoir. L'esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, ce seul et même esprit donne de guérir des malades. À un autre, il est donné de faire des miracles. Un autre reçoit une activité prophétique. Un autre, le discernement de ce qui vient de l'esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues. Et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Nous poursuivrons notre lecture dans 1 Corinthiens 12, les versets 27 à 30. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous en particulier en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église. Les miracles, la guérison de malades, l'aide, la direction de l'Église, le parler dans des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Est-il donné à tous de guérir des malades? Tous parlent-ils dans des langues inconnues ou tous les interprètent-ils? Évidemment non. Et donc, nous allons lire un troisième texte, aussi de l'apôtre Paul, et qui nous parle aussi de dons. Dans Romains 12, les versets 3 à 15. Donc, nous changeons de livre et nous allons dans Romains 12 pour lire les versets 16. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service. qui se consacre à ce service, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. L'amour ne sait pas mentir, ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez plein d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Voilà nos lectures pour aujourd'hui. Je vous encourage à retrouver ces textes à la maison parce qu'ils sont vraiment riches de plein de choses. Et finalement, la première réaction que j'ai eue à la lecture de ces passages, c'était pas de lister les dons que nous y trouvons en fait. Cette liste, nous pouvons la trouver dans de nombreux commentaires. Par exemple, dans le chapitre sur le Saint-Esprit du livre « Pour une foi réfléchie » d'Alain Isus, nous trouvons même un excellent tableau. Alors, s'il passe. J'arrive pas à le faire avancer. Voilà, donc ça, je l'ai photographié dans le livre d'Alain Isus. Et je vous renvoie à ce chapitre. C'est un livre qui est disponible dans notre bibliothèque à l'église pour un commentaire fort intéressant sur plusieurs dons mentionnés dans ces textes. Non, la question qui m'a interpellée concerne directement le Saint-Esprit. Alors je vous pose cette question. Connaissez-vous l'Esprit de Dieu ? Qui est-il ? Est-ce que vous pensez connaître le Saint-Esprit ? Pour ma part, après avoir fait cette étude, je vois que je ne connais rien, même en ayant étudié. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. En tout cas, dans les textes que nous avons lus, nous voyons que l'Esprit donne, distribue, mais il fait bien plus que cela. Le Saint-Esprit, c'est une des trois personnes de la Trinité. Et si vous retournez sur le texte de 1 Corinthiens 12, le verset 4, cela nous le rappelle clairement, c'est le premier verset que nous avons lu. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Donc nous constatons dans cette formulation qu'il est question du Saint-Esprit, du Fils, appelé le Seigneur, et finalement du Père. L'apôtre Paul commence en précisant qu'il existe une diversité de dons, une diversité de services et une diversité d'opérations. Et cela lui permet d'insister en premier lieu sur le fait que les différentes personnes de la Trinité fonctionnent dans l'unité. Il relie les dons à l'Esprit, les services au Seigneur et les opérations à Dieu. Alors ça nous propulse dans une nouvelle compréhension de ce que peuvent être les dons. Nous avons l'habitude de les considérer un par un pour pouvoir imaginer ce qui nous conviendrait ou celui que nous souhaiterions exercer, ou pour chercher, fouiller, comprendre avec notre intellect ce qu'est exactement tel ou tel don. Mais si nous agissons ainsi, Nous nous focalisons sur les dons et sur nous-mêmes. Mais ce que nous déclare l'apôtre Paul, c'est que les dons nous sont donnés par Dieu, distribués par l'Esprit, en vue du bien commun. On l'a lu dans 1 Corinthiens 12, le verset 7. Ils ne sont donc pas donnés pour être mis chacun en avant, celui-là est mieux que celui-là, mais pour constituer un ensemble harmonieux de ce qui peut motiver la communauté, de ce qui peut l'encourager, la faire grandir spirituellement. Et réfléchir de cette façon en globalité peut nous aider à comprendre que l'Église ne doit pas forcément manifester en son sein tous les dons qui sont mentionnés, mais que l'Esprit va donner à cette communauté, à notre communauté, ceux qui lui sont nécessaires pour son bien. Ce bien commun, c'est de préserver l'unité, pas de satisfaire chacun dans son coin pour qu'il mette en pratique un don qu'il aura désiré, déconnecté de l'intérêt de tous. En deuxième lieu, le Saint-Esprit, c'est une personne. En 1 Corinthiens 12, les versets 8 à 11, il est dit plusieurs fois que l'Esprit donne. En 1 Corinthiens 12, 27 à 30, il est dit que c'est Dieu qui donne. Là, nous y voyons encore l'unité entre Dieu et l'Esprit. Mais finalement, Dieu nous semble quand même proche, mais est-ce que nous connaissons l'Esprit ? Quand je prononce le mot « esprit », est-ce que dans votre pensée, il n'y a pas automatiquement quelque chose à son sujet qui vous permet de le considérer comme une force, une expression figurée de l'énergie divine ? Pourtant, à y regarder de près, si nous connaissions tous parfaitement bien le grec, nous pourrions nous rendre compte d'une subtilité. Le pronom personnel qui est employé au sujet de l'esprit dans les textes bibliques est au masculin. Donc ça concerne une personne, alors qu'en grec, l'esprit, c'est un nom neutre. Ce qui montre que dans la Bible, l'esprit est vraiment considéré comme une personne. Ce n'est pas une chose, une entité, une vapeur. Si nous étudions le texte biblique, nous voyons que l'Esprit a les caractéristiques de Dieu. Il est éternel. Alors, je vais citer les versets. Si vous voulez avoir tous les versets pour rechercher, je vous donnerai la liste avec plaisir à la fin. Donc, l'Esprit est éternel. Nous le voyons en Hébreux 9, 14. Il est omniprésent. Nous le voyons dans le psaume 139. Versets 7 à 10, il est omniscient, dans 1 Corinthiens 2, versets 10-11. Il est puissant, dans Romains 15-19. Mais nous voyons qu'il est une personne également, et c'est ce qui est difficile à comprendre pour nos esprits cartésiens, parce qu'une personne, pour nous, ça a un corps physique, et l'esprit n'en a pas. Mais il enseigne, en Jean 4, le verset 14, le verset 26, « Il écoute et il parle » en Jean 16, le verset 13. « Il encourage » dans Actes 9, 31. « Il envoie » dans Actes 13, 4. « Il est attristé » dans Éphésiens 4, 30. Et d'ailleurs, c'est cette proportion à être attristé qui m'interpelle. Éphésiens 4, 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » Et alors que nous sommes dans une phase où nous réfléchissons aux dons qui nous sont accordés par l'Esprit, pour ma part, j'ai vraiment été interpellée par ce verset. J'ai pensé à une personne qui me ferait un cadeau, hein, puisqu'on nous dit l'Esprit donne. Donc une personne qui me ferait un cadeau. Et alors, est-ce qu'il me viendrait à l'idée de lui dire « Ah ben non, repars avec ton paquet, je n'en veux pas. » Et vous, si quelqu'un vous apporte un cadeau, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites « Non, mais pars, j'en veux pas, moi, ça ne me sert à rien. » Pourtant, lorsque l'Esprit nous convainc que nous avons un don pour enseigner ou pour guérir, pour donner une parole de sagesse. Et là, je ne cite que des dons mentionnés dans nos textes. Nous nous comportons parfois de cette façon. Ah oui, peut-être. Non, c'est pas pour moi. Donc, le cadeau qui nous est fait, nous le refusons et nous attristons le Saint-Esprit. Une autre attitude qui provoque le même résultat, c'est d'accepter avec joie le cadeau. Je le prends, je l'ouvre et puis je le mets dans un coin. Et j'y pense plus. Mais si le Saint-Esprit est une personne capable de sentiments, alors cherchons à le considérer lui aussi avec tout l'amour que nous éprouvons pour Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, son Fils. Ils sont tous les trois au même niveau d'égalité. Ne le voyons pas comme un super pouvoir qui nous permet d'être puissants dans tel ou tel domaine, mais comme un ami bienveillant qui nous offre la possibilité d'œuvrer pour le bien commun. Enfin, le Saint-Esprit nous est envoyé par Dieu et il habite en nous. Jean 14, les versets 16 et 17 nous affirment « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Combien il est extraordinaire d'imaginer que le Saint-Esprit n'est pas seulement cette personne qui vit à côté de nous pour nous guider, mais que c'est une personne qui peut vivre en nous. Et si elle vit en nous, la communion que nous pouvons avoir avec lui est encore plus étroite. Souvent, nous nous demandons, mais comment vais-je savoir que l'Esprit veut me donner tel ou tel don ? Mais il vit en nous, donc il nous parle et nous enseigne. Parfois, c'est juste que nous n'arrivons pas à bien écouter et entendre. Il nous parle, mais bon, finalement, ce qu'il nous demande de faire, ça ne nous plaît pas trop. Alors, il nous accorde cette puissance d'agir selon la volonté de Dieu. De la même façon que nous ne voulons pas nous faire du mal à nous-mêmes, le fait que le Saint-Esprit vive en nous nous conduit à lui faire plaisir et non à l'attrister. Sinon, nous ne serions pas à l'aise nous-mêmes. Alors, peut-être vous ne comprenez pas cette subtilité. J'ai essayé de réfléchir et j'ai trouvé un exemple de quelque chose qui m'est arrivé. Alors, si par exemple, vous vous sentez poussé à prier durant le culte, et puis vous avez peur et vous laissez passer votre tour, parfois vous sentirez comme un grand vide ou une tristesse parce que vous vous êtes tu. Et ça m'est arrivé. Non pas parce que j'aurais dû prier à haute voix pour qu'on m'entende, moi, Laurence, mais parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas fait confiance au Saint-Esprit qui me poussait à exprimer quelque chose à haute voix. Et le jour où ça m'est arrivé, en discutant après le culte avec les personnes, je me suis rendu compte que la prière que Dieu m'avait mise sur le cœur, c'était un encouragement pour quelqu'un qui était dans l'assemblée. Mais à ce moment-là, il n'a pas pu recevoir cet encouragement. Et vous voyez, on se pose la question, comment recevoir les dons du Saint-Esprit ? Ben là, pour ce moment précis, Dieu m'avait demandé de manifester ce don d'encouragement de cette façon-là. Donc j'ai attristé le Saint-Esprit, mais je ne me sentais pas bien non plus. C'est comme ça qu'en attristant le Saint-Esprit qui est en nous, nous nous attristons nous-mêmes. Alors bon, ça ne nous dit quand même pas quels sont les dons de l'Esprit. Donc différents dons sont mentionnés selon nos trois textes, dans nos trois textes de référence. Dans ce tableau, vous voyez que selon les trois listes que nous avons, elles se recoupent parfois. Par exemple, la prophétie ou le prophète s'est cité dans les trois textes. L'enseignement est cité dans deux d'entre eux. Mais parfois, c'est complètement différent. La générosité ne se trouve qu'en Romains, la parole de connaissance dans la première liste de Corinthiens, l'aptitude à secourir dans la deuxième liste. Est-ce que cela voudrait dire que certains doivent être retenus parce qu'ils sont cités partout ? Je pense plutôt que ça nous montre que la liste n'est pas exhaustive. On rétrécit souvent les dons de l'esprit de façon inappropriée quand on les identifie avec le parler en langue, la prophétie et les guérisons ou les miracles, qui sont les manifestations les plus spectaculaires des dons. Mais lorsque nous regardons les listes de tous ces dons qui sont mentionnés, nous voyons bien que l'encouragement, la générosité ou la bienveillance ne font pas des vagues, comme c'est les premiers dons que je viens de citer. Et pourtant, quel bienfait pour la communauté lorsqu'ils sont présents en son sein. Et puis, je vais me pencher plus particulièrement sur Romains 12. La liste est étonnante parce que si nous mettons en parallèle les versets 10 et 13 avec les versets 6 et 8, en ne les affichant pas de façon linéaire, mais en allant à la ligne pour chacun d'entre eux, on voit qu'il y a une construction parallèle dans ces passages. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, alors qu'il se consacre à ce service, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Et puis, à partir du verset 10, en ce qui concerne l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant ? C'est que dans cette épître aux Romains, Paul n'insiste pas vraiment sur différents dons pour les expliquer, mais sur la réalité de leur exercice, l'attitude du cœur à avoir en les exerçant. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est la façon dont on vit ces dons. Et finalement, nous voyons dans les versets 10 à 13 que la façon dont nous vivons tous ensemble, animés par l'Esprit, dans une bonne disposition de cœur, est une bénédiction pour l'Assemblée. Et finalement, si nous regardons le début de ce passage et la fin, que je n'ai pas recopié, l'Épître aux Romains nous exhorte. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. Et ayez les uns pour les autres une égale considération sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. L'exercice de ces dons ne nous conduit pas à nous mettre en avant, mais au contraire, nous nous effaçons derrière Dieu et les capacités que le Saint-Esprit nous donne pour glorifier Dieu. Mais alors finalement, pourquoi ces dons sont-ils donnés ? Qui peut les exercer et comment ? Alors pour essayer de comprendre, ce que je vous ai dit, je n'ai pas tout compris non plus parce que le sujet est vaste. Essayez de prendre la mesure du pourquoi et du comment. J'ai pris quelques exemples piochés dans la Bible. Alors, comme Corinne l'a dit, c'est la journée de la femme, donc mon petit clin d'œil, c'est que j'ai surtout pris des exemples féminins ce matin. Tout d'abord, que s'est-il passé pour ceux qui ont cherché un avantage personnel dans l'exercice d'un don ? Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira, j'espère, dans Actes. Ils ont considéré et voulu exercer le don de générosité des premiers chrétiens. Ils ont voulu l'imiter. Donc en Actes 2, les versets 44-45, nous voyons comment les premiers chrétiens partageaient tous leurs biens avec amour et désintéressement. En voulant les imiter, ce couple a décidé de vendre une propriété, mais de garder une partie du produit de la vente pour lui-même. Jusque-là, rien de mal, hein, on a le droit d'agir comme ça. Je vends une maison et puis je donne 300 000 euros à l'église, je garde 50 000 pour moi. Il n'y a pas de problème. Mais là où ils ont couru à leur perte, c'est lorsqu'ils ont affirmé haut et clair qu'ils avaient bien vendu leur propriété selon le montant d'argent qu'ils donnaient. Donc, ils ont dit « oui, on a bien vendu 300 000 euros ». Pour se faire bien voir, parce qu'ils faisaient un gros don, etc. Mais ils ont menti. Donc, ils ont accompagné leur libéralité, le fait d'exercer le don de générosité, du mensonge et de l'amour de l'argent. Et après, on connaît la suite. Hein. Dieu les a fait périr. Pourtant, c'était des chrétiens qui étaient emplis de l'esprit parce qu'ils s'étaient convertis, avaient donné leur vie à Dieu. Mais ils ont mal exercé le don que Dieu leur avait donné. C'était pour eux, pour leur avantage. Un autre personnage dans le livre des Actes a pensé que le don de l'esprit pouvait s'acquérir avec de l'argent. Simon avait reçu l'esprit en lui lors de sa conversion. Il pouvait exercer les dons de l'esprit. Mais au lieu de regarder à ce que ça produisait en lui, il regardait avec envie comment les apôtres l'utilisaient. Il recherchait pour lui-même, pour sa gloire, la capacité à imposer les mains aux autres pour qu'ils reçoivent l'esprit. Il ne cherchait pas le bien commun. Pierre a discerné la noirceur de son cœur. La convoitise ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit nous sont donnés pour le bien de l'Église et de la communauté. 1 Corinthiens 12 nous le déclare. Éphésiens 4, les versets 11-12 nous expliquent « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. » Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Si Dieu a voulu que les dons soient distribués par le Saint-Esprit, c'est bien pour que l'ensemble grandisse. C'est pas pour que l'un ou l'autre se glorifie de pouvoir exercer tel ou tel don. Et nous le retrouvons dans l'exemple d'une femme de l'Ancien Testament. Déborah. D'ailleurs, pour celles d'entre nous qui participaient aux réunions du groupe de dames, nous avions choisi le nom abeille butineuse. Saviez-vous que Déborah, ça signifie abeille ? Je l'ai découvert en cherchant pour cette prédication. Déborah était prophétesse et juge en Israël. Alors, la Bible ne mentionne pas qu'elle était emplie de l'Esprit, mais c'est vraiment implicite dans le fait qu'elle était prophétesse. Et nous pouvons lire son histoire en Juges, les chapitres 4 et 5, pour voir comment elle a suivi ce que Dieu mettait en son cœur pour que le peuple d'Israël soit délivré de ses ennemis. Comment son obéissance à Dieu a servi pour le bien de la communauté. Elle a fait preuve de discernement dans son dialogue avec Barak, qui devait diriger l'armée d'Israël. Elle était décidée et n'a pas hésité. Et c'est aussi ainsi que le Saint-Esprit veut nous diriger pour le bien de tous. Il ne nous rend pas hésitants, mais il nous rend décidés et énergiques. Enfin, les dons de l'Esprit nous sont donnés pour la gloire de Dieu. Finalement, le Saint-Esprit nous donne des capacités particulières pour que sa gloire, pas la gloire de l'Esprit, mais la gloire de Dieu soit manifestée. L'exemple de Hulda, à l'époque de Josias, nous le montre. Hulda, c'est celle qui a lu le livre de la loi quand Josias l'a découvert. C'est une des rares femmes dotées d'un ministère prophétique authentique mentionné dans l'Ancien Testament. Donc il y a elle, il y a Myriam, Déborah, il y a la femme d'Ésaïe. Et ce ne sont ni Jérémie ni Sophonie, pourtant également prophètes en ces temps-là, mais bien Hulda que le roi Josias consulta au sujet de l'étonnante découverte du livre de la loi. Nous savons seulement que Dieu lui a confié sa parole en période de crise nationale. Après la prophétie de Hulda, Josias mena l'une des plus grandes révolutions religieuses de l'histoire, purgeant Juda et même une portion d'Israël du paganisme. Hulda n'a pas eu peur de proclamer la vérité, même au roi. Elle a prononcé des mots qui lui ont certainement coûté, mais elle a parlé, de toute façon. Elle a chéri la parole de Dieu et lui a rendu gloire. Vous pouvez relire cela dans 2 Rois, au chapitre 22, les versets 14 à 20. Là encore, il n'est pas explicitement fait mention du Saint-Esprit, mais là encore, nous pouvons bien imaginer que l'Esprit de Dieu reposait sur cette femme prophétesse, ce qui l'a conduit à glorifier Dieu dans son ministère. Alors finalement, de cette étude, je retiendrai que le Saint-Esprit, c'est une personne qui nous accompagne, que nous pouvons réjouir ou attrister, qui distribue les dons selon sa sagesse. Nous allons attrister le Saint-Esprit si nous recherchons la gloire humaine, l'approbation humaine, si nous n'avons pas notre cœur droit et rempli de vérité, comme Ananias, Saphira, Simon. Nous courons alors vers de graves désillusions, voire des problèmes vitaux. Lorsque le Saint-Esprit nous équipe pour le service par ses dons et que nous lui obéissons, comme l'a fait Déborah, et le réjouissons, cela nous apporte une plénitude de joie et de paix. Ce n'est pas toujours facile, comme par exemple pour Hulda, mais nous contribuons ainsi à glorifier Dieu. Le Saint-Esprit nous équipe par ses dons pour le bien de l'Église. Finalement, alors que nous voulons obéir à Dieu en recherchant les dons les meilleurs, en nous focalisant sur eux, pensant ainsi servir Dieu comme il le souhaite, et du coup en nous focalisant sur nous, moi je peux faire ceci, cela, sur ce qui nous paraît important pour nous-mêmes, nous nous trompons sans doute de cible. Nous sommes appelés à exercer les dons que Dieu veut bien nous donner par le Saint-Esprit dans une attitude d'humilité, de sagesse, avec un cœur simple, pour le service de Dieu, pour le service des sœurs et frères, en nous oubliant nous-mêmes. Ce qui compte, ce n'est pas la liste de nos dons. Ce qui est essentiel, c'est Dieu, Père, Fils, et Saint-Esprit. Prions. Oui, Seigneur, c'est vrai que c'est vaste et présomptueux de vouloir parler de ton Esprit Saint, de cet Esprit Saint qui vit en nous, qui nous accompagne, cette personne qui se tient à nos côtés, qui nous guide de ta part. Mais Seigneur, je te prie vraiment que tu nous apprennes à vraiment mettre l'importance sur toi, sur ton Fils, sur le Saint-Esprit dans nos vies, et pas sur ce que nous pourrions faire. Ce que nous pouvons faire, c'est toi qui nous l'indiques. Nous, notre responsabilité, c'est de te louer, de te glorifier, de te servir. Alors mets en nous les bonnes pensées, les bonnes aptitudes de cœur, afin que tout soit fait pour ta gloire. En Jésus-Christ. Amen.